Et nous te rendons grâce de ce que tu nous as choisi, tu nous as appelé, tu nous as formé, tu nous as qualifié, tu nous as envoyé. Et maintenant, nous sommes là pour te servir et nous te prions que nous puissions être encore instruits aujourd'hui afin d'être de bons soldats, des bons soldats du roi des rois, des bons soldats de la paix et de l'amour. Merci Jésus. Amen. Alors, rebonjour à tous. Comme vous avez entendu, vous aussi sur Internet, on a chanté quelques chants ce matin. Nous sommes là pour adorer Dieu. Et le chant, ben, ça fait partie de l'adoration. Jésus chantait des cantiques avec ses disciples. Hein, on trouve ça dans la Bible. Hein, vous l'avez trouvé dans la Bible? Moi, j'ai trouvé. Tout est bien avec le Seigneur. Tout est bien avec Dieu. Pour ceux qui sont avec Dieu, évidemment, bien sûr. Il n'y a rien qui existe en dehors de Dieu. Ça, il faut qu'on en soit vraiment bien conscient. Que Dieu nous aide à bien comprendre ces choses-là. C'est là ma prière ce matin pour chacun d'entre vous, que Dieu vous aide à bien comprendre tout cela. Parce que l'autre jour, je vous parlais de notre personnalité. Et je vous disais que notre personnalité, c'est en quelque sorte notre nature inférieure. Il faut bien lui donner un nom, on peut lui appeler la nature inférieure ou le vieil homme, comme vous voulez. Mais c'est la personnalité. On dit d'une personne, oh là là, quelle personnalité, hein? Et je vous expliquais l'origine du mot personnalité. Et puis alors nous avons aussi notre individualité, qui est notre nature supérieure, qui est donc notre l'esprit éternel, qui est en nous, qui fait que nous sommes un être vivant, hein, parce que Dieu a mis... Je répète un peu les choses parce que je sais qu'il y a des nouvelles personnes qui viennent sur Internet, elles n'ont pas encore eu le temps d'écouter tout. Il y a je ne sais plus combien de prédications. Donc, c'est parce que Dieu a mis un esprit dans notre corps que nous sommes un être vivant. Le mot « être vivant », ça veut dire « l'âme », hein. Donc, nous sommes une personne avec une individualité, c'est-à-dire avec... l'esprit qui est en nous, cet esprit qui vient de Dieu ou pas, parce que vous avez des gens qui viennent sur la terre et qui sont pas des esprits, bien sûr que c'est Dieu qui les envoie en gros, bien sûr, mais ce sont des esprits qui déjà avant s'étaient rebellés contre Dieu, et quand ils viennent sur la terre, ben ils continuent, c'est comme ça, c'est dans leur nature. Il faut savoir que les deux viennent de Dieu, c'est-à-dire notre nature inférieure et notre nature supérieure. Il faut qu'on sache absolument que les deux viennent de Dieu. Il n'est pas question d'autre chose dans la parole de Dieu. On va lire un texte qui effraie pas mal de chrétiens mal affermis, que les pasteurs évitent soigneusement d'enseigner, parce que ça fait peur un petit peu, n'est-ce pas, à certains. Et je vais vous lire, c'est dans Ésaïe chapitre 45, versets 1 à 9. Voilà ce que dit l'Éternel à celui qu'il a désigné par onction à Cyrus, celui qu'il tient par la main droite pour écraser des nations devant lui et pour désarmer des rois, pour ouvrir des portes devant lui afin que les entrées des villes ne lui soient plus fermées. Je marcherai moi-même devant toi, j'aplanirai les pentes, je mettrai en pièces les portes en bronze et je briserai les verrous en fer, je te donnerai des trésors dissimulés par les ténèbres, des richesses cachées afin que tu reconnaisses que je suis l'Éternel, celui qui t'appelle par ton nom, moi le Dieu d'Israël. C'est à cause de mon serviteur Jacob, à cause d'Israël, celui que j'ai choisi, que je t'ai appelé par ton nom. Donc par la Cyrus, hein. Je t'ai donné un titre alors que tu ne me connaissais pas. Voyez ? C'est moi qui suis l'Éternel et il n'y en a pas d'autre. À part moi, il n'y a pas de Dieu. Je t'ai équipé pour le combat alors que tu ne me connaissais pas. C'est afin que l'on sache, à l'est comme à l'ouest, qu'en dehors de moi, il n'y a que néant. C'est moi qui suis l'Éternel et il n'y en a pas d'autre. Je forme la lumière et je crée les ténèbres. Je donne la paix et je crée le malheur. C'est moi l'Éternel qui suis l'auteur de tout cela. Que le ciel déverse et que les nuages fassent couler la justice, que la terre s'ouvre afin que le salut y porte du fruit, et qu'avec lui la justice y fleurisse, c'est moi l'Éternel qui ai créé cela. Malheur à l'homme qui intente un procès à celui qui l'a façonné, lui qui n'est qu'un vase parmi d'autres vases de terre. L'argile dit-elle au potier, que fais-tu ? Ou ton travail est mal fait ? Malheur à l'homme qui dit à son père, pourquoi m'as-tu donné la vie ? Et à sa mère, pourquoi m'as-tu mis au monde ? Voici ce que dit l'Éternel, le Saint d'Israël, celui qui le façonne. Va-t-on m'interroger sur l'avenir ou me donner des ordres sur mes enfants et sur mon activité ? C'est moi qui ai fait la terre et créé l'homme qui la peuple. C'est moi. Ce sont mes mains qui ont déployé le ciel. C'est moi qui donne des ordres à tous les corps célestes. C'est moi qui ai appelé Cyrus en toute justice et qui ferai toutes ses voies bien droites. Il reconstruira ma ville et laissera partir mes exilés sans paiement ni cadeau, dit l'Éternel, le maître de l'univers. Amen. Ouf. C'est un texte magnifique, mais qui fait beaucoup réfléchir les humains. Dieu est Dieu, il est notre Dieu. À part Dieu, il n'y a pas de Dieu. Et s'il y a d'autres dieux, nous n'en tenons pas compte. Dieu, ça signifie objet d'adoration. Alors il est évident qu'il y a d'autres dieux. Parce que les gens adorent toutes sortes de choses. Les humains ont d'autres dieux que nous. D'autres sujets d'adoration. Leur petit moi, leur personnalité, leur ego, leur argent, leur sport, les distractions, enfin ce que vous voulez. Ils se sont fabriqués des dieux aussi religieux. Le Jésus catholique, qui n'a pas grand-chose à voir avec le Jésus de la Bible. Hein. Sa mère, Marie, ils l'ont divinisé, et plein de soi-disant saints qu'ils adorent, ils se mettent à genoux devant. Pas me dire qu'il les adore pas, il on les adore pas, alors mettez-vous pas à genoux devant, déjà, pour commencer, hein. C'est une abomination. Ces dieux ne sont pas des dieux, ils ne sont des dieux que pour ceux qui les adorent, mais pas pour nous, pas pour nous. Certains adorent Satan même. Pour eux, Satan est l'objet de leur adoration. Il y a des satanistes. Je viens de lire, de terminer la lecture du livre de notre frère Morgan Priest, on dit Priest, je croyais qu'on disait Priest, mais on dit Priest. Et ben, moi, je lis très bien son bouquin. Il a une drôle d'apparence, mais moi, ça m'est complètement égal. Moi aussi, j'ai une drôle d'apparence. Alors, c'est bien. Dieu ne regarde pas à l'apparence. C'est les gens qui regardent à l'apparence. Mais Dieu ne regarde pas à l'apparence. Alors, il y a beaucoup de gens qui ont l'air. Des bonnes brebis qui ont une bonne apparence, et puis en réalité, dedans, c'est autre chose. Lui, il a l'air bizarre, mais quand on lit ce qu'il écrit, puis quand on écoute ce qu'il dit, ben, ma foi, non, moi je trouve que c'est un bon chrétien, si ça vous choque que je dise ça, mais bon, je ne connais pas, à part ce que j'ai lu, ce que j'ai entendu de lui, mais bon, voilà. Lui, il adorait Satan, il était un sataniste, et puis il s'est converti. Ah, je viens de très loin, ça fait 4-5 ans seulement maintenant. Pour moi, c'est un bébé spirituel encore, hein. Ça fait 46 ans, je sais plus combien. Je crois que c'est 46 ans que je connais Jésus. Mais vous avez des gens, ça fait 46 ans qu'ils connaissent Jésus, et puis pour eux, c'est comme s'ils l'avaient connu il y a 15 jours, c'est-à-dire ils sont toujours des bébés. Donc le temps ne veut rien dire, enfin pas grand-chose du moins. Quoique, quand même, avec le temps, on fait des expériences. Mais celui qui se mouille pour Jésus, c'est-à-dire qui témoigne, il fait beaucoup plus vite des expériences que celui qui ne fait que d'étudier, par exemple. C'est certain, faire des expériences avec Dieu, ça mûrit l'homme. Bon, alors pour eux, Satan, les satanistes, ben pour eux, Satan, ben c'est Dieu. Et puis Dieu, ben c'est un méchant. C'est à l'envers, c'est bizarre pour nous, mais en tout cas pour nous, c'est pas du tout ça. Hein. Pour nous, c'est pas du tout ça. En aucune façon. Satan n'est Dieu pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, et il le dit lui-même, c'est moi qui forme la lumière et c'est moi qui crée les ténèbres. C'est pas Satan qui crée les ténèbres. C'est moi qui donne la paix, c'est moi qui crée le malheur, c'est pas Satan qui crée le malheur. Si vous voulez, Satan, son rôle, c'est le mauvais boulot. C'est il a été créé par Dieu pour faire le sale boulot, voilà. C'est un sous-fifre, en quelque sorte. Je ne l'insulte pas en disant ça, mais je le remets à sa place. Il n'est pas un dieu, il est le prince de ce monde, oui, le prince de ce monde, mais il n'est pas un dieu. Et on connaît sa fin. Alors, c'est un sous-fifre qui fait le sale boulot de Dieu, voilà, c'est tout. C'est moi l'Éternel qui suis l'auteur de tout cela. Il est l'auteur, il est à la base de tout cela. Puis il dit à l'homme, tu te plains? Tu veux m'intenter un procès? Tu veux m'intenter un procès parce que je t'ai formé comme t'es formé? T'es un vase. Tu trouves que t'es pas beau? Tu trouves que t'es pas bien, t'es mal foutu? C'est de la pure folie d'intenter un procès à Dieu en disant, voilà, ce que tu vas oser dire, par exemple, à Dieu, bon, tu m'as mal fait. Hein, je me rappelle toujours cette vieille chrétienne, un jour je lui dis, oh, c'est mal fait. Elle me dit, on ne va pas dire ça, c'est Dieu qui a tout fait. On ne va pas dire c'est mal fait. Là, c'est en Suisse qu'on a cette sale habitude de dire, oh, c'est mal fait. À la place de dire, oh, c'est triste. On dit, oh, c'est mal fait. Il ne faut pas le dire, parce que ce n'est pas vrai. Dieu, tout ce que Dieu fait, c'est bien, même ce qui paraît mal. Est-ce que tu vas interroger Dieu sur ton avenir? Mais c'est idiot. Ça, c'est des païens qui cherchent à connaître leur avenir. Et puis, ce sont les chrétiens mal affermis qui courent derrière les prophètes pour connaître leur avenir, savoir s'ils vont se marier, savoir s'ils vont voyager, tout ça. C'est du charnel à fond de cale. Est-ce que tu vas donner des ordres à Dieu? C'est ridicule. Seigneur, tu as dit dans ta parole, fais ci, fais ça, alors maintenant tu l'as dit, alors fais-le. Mais c'est quoi ce cirque? C'est quoi ce cirque? C'est des prétentions, c'est effrayant. Dieu dit, c'est moi qui donne des ordres, pas toi, verset 12. C'est moi qui donne des ordres, c'est pas toi. Voilà, c'est clair, c'est net, prends ça dans ton groin, c'est bon comme ça. Ça te plaît pas? Ben, si tu trouves ça injuste, ben t'as qu'à changer de camp, t'as qu'à devenir un sataniste, et puis voilà. Puis voilà, t'es pas content, et ben arrête tout. Bâche tout, puis c'est bon. Fiche-toi de tout, puis voilà. Si tu veux vraiment adorer Dieu, tu dois le prendre comme il est. Amen.
Amen.
Amen, et c'est comme ça. Bon. On peut être étonné de lire ça dans la Bible, mais c'est comme ça. Et puis c'est pas autrement. Parce qu'il n'existe rien en dehors de Dieu. Rien. Il le dit, à part moi, c'est le néant, il n'y a rien, il n'y a rien, rien, rien. Même le mal, ou ce que nous ressentons comme le mal, ben ça fait partie de Dieu. Ça fait partie de Dieu, on n'y échappe pas, c'est comme ça, et puis c'est pas autrement. Même l'adversaire a été créé par Dieu dans un but. Et pour vous de la communauté, vous le savez, je vous l'ai déjà enseigné, mais il y en a qui viennent depuis peu de temps sur Internet, ils ne connaissent pas bien, donc je vais le lire pour eux, c'est dans Proverbe 16, 4, il est dit clairement, l'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. Voilà. Il a même fait le méchant pour le jour du malheur. Voilà. C'est pas bien? Si, c'est bien. Ça dépasse l'entendement de beaucoup, c'est sûr. Et les réactions sont diverses quand on prend conscience de ça. Certains ne cherchent pas à comprendre, et ils lisent ça en vitesse, ils disent... Ils ne cherchent pas à comprendre, et puis ils vivent en acceptant tant bien que mal cette apparente contradiction. Il n'y a pas de contradiction. Il n'y a pas de contradiction. D'autres se révoltent, et puis ils rejettent tout ça en bloc, et puis d'autres s'en foutent complètement. Puis voilà, puis la vie est belle, et puis voilà, puis après ils disent, ouais, s'il y avait un Dieu, il n'y aurait pas tous ces malheurs, et tout. L'homme est fou. Les femmes aussi, il ne faut pas oublier les femmes, hein. On parle toujours de l'homme, mais il y a les femmes aussi, hein. Les religieux sont très machos, c'est toujours l'homme. À part quand c'est la femme adultère, là, il n'y a plus d'homme, c'est la femme toute seule. Et c'est les religieux, ça. Jésus dit, qu'à la fin des temps des nations, pas à la fin du monde, à la fin du temps des nations, c'est ce qu'on vit maintenant, eh bien la connaissance augmentera. La fin du temps des nations, c'est ce qu'on vit maintenant, c'est la mondialisation. Hein, ça fait déjà longtemps que les nations, c'est plus qu'un truc de pacotille qu'on met devant le peuple en lui faisant croire que parce qu'il va aller mettre un bulletin dans l'urne, il va élire machin ou machine. C'est pas vrai, tout ça c'est calculé, c'est prévu. Dans des milieux autorisés où vous n'êtes pas autorisé d'aller, ça c'est combiné, tout ça c'est truqué, c'est vieux comme le monde, hein, mais disons que maintenant c'est bien organisé, hein, il y a vraiment un gouvernement mondial et le prince de ce monde c'est Satan, il a ses suppositoires. Donc voilà, dans tous les domaines, la connaissance augmente à la fin du temps des nations. Et on voit que depuis qu'on parle ouvertement de la mondialisation, moi je me rappelle dans les années 60, quand les chrétiens, quand on parlait de ça aux inconvertis, ils ouvraient des yeux tout ronds, puis comme si on était des extraterrestres, ils nous regardaient, ils disaient, vous êtes des imbéciles, ça se peut pas. Et ben maintenant, ils en parlent plus que nous de la mondialisation. Hein. Maintenant, nous, on a déjà passé plus loin, on va plus loin, on connaît d'autres choses. Mais tout augmente. Depuis qu'il y a cette mondialisation dont tout le monde parle, eh bien, toute la connaissance augmente dans tous les domaines. Ça, c'est vrai, on ne peut pas le nier. Elle augmente aussi quant aux choses sacrées. Alors, comment Dieu peut-il en même temps créer le mal et lutter contre le mal pour le vaincre et l'anéantir? Pourquoi? Comment Dieu peut-il faire cette chose-là? Ça paraît bizarre. Mais quand il y a une question, il doit y avoir une réponse. Et ça ne doit pas être une réponse inventée. Ça doit être une réponse biblique. Alors, il faut savoir que Dieu est un. Et qu'un jour, il a décidé de créer. Alors, évidemment, ce qu'il a créé est forcément moins bien que lui. Déjà, rien. Vous allez me dire, mais non, ce que Dieu crée, c'est parfait, c'est comme lui. Non, c'est pas possible. Déjà, réfléchissez, déjà, par le simple fait que ce qu'il crée a un commencement. Dieu n'a pas de commencement. Si ce qu'il crée est pareil que lui, ça veut dire que ça n'a pas de commencement. Si vous croyez ça, c'est déjà un non-sens. Il faut que vous acceptiez le fait que ce que Dieu a créé est moins bien que lui. Déjà par le fait que ça a un commencement. Et quand on réfléchit, tout ce qui a un commencement doit avoir une fin. C'est pourquoi tout ce qui vient au monde meurt un jour ou l'autre, disparaît un jour ou l'autre. On croit à nos civilisations, tout ça. Mais il y a eu des tas de civilisations avant nous qui ont pensé qu'elles dureraient l'éternité. Ils sont où maintenant? Hein, si les gens du temps de Nabuchodonosor venaient aujourd'hui, ils me seraient complètement paumés. C'est une bande de Zoulous incultes. Pourtant, ils en savaient des choses. Hein. Ils étaient riches, c'était magnifique. C'était une civilisation très avancée. À côté de nous, même à côté de Titi, qui a 7 ans. 7 ans, il en sait plus que beaucoup de... Et puis ce qu'on mange, hein, nous, dans cette région-là, là, vous avez vu, on mange mieux que Louis XIV. Je vous assure qu'on mange mieux que Louis XIV. On mange des choses du monde entier, c'est extraordinaire. Non, tout a augmenté, c'est fantastique. Mais ce que Dieu a créé est moins bien que lui, c'est certain. C'est certain. Là, on commence à réfléchir, et réfléchir, c'est le sens du mot méditation. Le mot méditation, ça signifie pas autre chose que réfléchir. On peut méditer sur un problème d'arithmétique. Ça veut dire y réfléchir, méditer. Mais il faut arrêter de dire que la méditation, c'est un machin uniquement religieux. Bien sûr que ça a une connotation religieuse dans notre inconscient, dans notre subconscient, même dans notre conscient. Mais en réalité, méditer, ça veut dire réfléchir. Alors réfléchissons. Quand Dieu a créé, la Bible nous dit qu'il a commencé par parler. Hein? Dans Colossiens 3,15, il nous a dit que Jésus est le premier-né de toute la création. Ça veut dire que la première chose que Dieu a fait, c'est qu'il a parlé. Il a manifesté quelque chose et nous a dit que Jésus est la parole de Dieu. C'est-à-dire que ce qui est sorti de Dieu, c'était sa parole, c'est-à-dire c'était Jésus. Et c'est par cette parole que tout a été créé. Et puis un jour, cette parole est devenue chair. C'est-à-dire qu'elle s'est mise à exister dans le domaine matériel en tant qu'être humain. Il est vraiment descendu bas, hein, Dieu, pour nous, par amour pour nous. Se mettre dans cette condition-là. Pour en arriver là, il a fallu qu'il descende drôlement bas. Dieu a quitté sa gloire pour s'incarner dans l'humiliation, dans la limitation humaine que nous connaissons, à un degré plus dense, plus lourd que celui de l'esprit, dans la matière. Ça a dû lui faire drôle, hein, de vivre dans la matière. Dieu s'est fait chair, Dieu s'est fait humain, c'est Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. Dieu avec nous, c'est pas un autre Dieu, c'est pas un deuxième Dieu, c'est le même Dieu, il n'y en a qu'un et son nom est Jésus. Dieu avec nous, c'est Jésus. La différence entre lui et nous, c'est quoi? C'est qu'il est né hors péché. Je le crois parce que c'est écrit. Moi, j'étais pas là, j'ai pas vu, mais ceux qui l'ont vu, ceux qui l'ont connu, ont dit on n'a jamais vu péché. Il n'y a pas de péché, la Bible dit, il n'y a pas de péché, moi je le crois. Sans péché, pur. Alors que nous héritons des gènes de nos parents et de toutes les tares dues au péché. Moi, je suis content parce que je suis né dans une famille où les gens étaient normaux. Mais il y en a, ils n'ont pas cette chance-là. Il y en a, ils sont nés dans une famille où il y a des tas de tarés déjà avant. Ils ont hérité de ça. Hein. Et ils continuent, puis ils refont encore des enfants, je trouve, on devrait leur interdire. C'est terrible. Mais bon, les pauvres, quoi, qu'est-ce que vous voulez? Ben, il ne faut pas se plaindre, c'est comme ça, il faut faire avec. Si vous êtes chrétien, né dans une famille où il y a plein de tarés, mais réjouissez-vous d'avoir été choisi par Dieu. C'est magnifique. Puis maintenant, avec l'aide de Dieu, ben, corrigez les choses qui doivent être corrigées. Vous en avez le pouvoir par la foi au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et ne vous contentez pas d'être simplement des tarés parce que vos parents étaient des tarés. Donc, Jésus était une individualité et sa personnalité était divine. Alors que nous avons une personnalité qui est charnelle et pécheresse. Et notre individualité, notre esprit, elle est étouffée par la chair. C'est ça le problème. C'est que notre esprit, il est étouffé par la chair. On pense à une vitesse, mais c'est effrayant, ça s'arrête jamais, il n'y a pas de bouton pause, hein. Ça n'arrête pas, on pense, on pense, on pense, et c'est pas toujours positif ce qu'on pense. Et puis ce qu'on dit. Alors Jésus, lui, il est sans péché, sa personnalité était donc pure, mais il aurait très bien pu sombrer dans le péché. C'était tout à fait possible. Il a été tenté en toutes choses comme nous, mais il n'a succombé à aucune tentation, nous dit la Bible. Sa chair, elle était aussi faible que la nôtre, puisque semblable à la nôtre. Ça, faut pas oublier. Il y a des gens qui disent, ouais, mais il n'a pas péché parce que il était Dieu. Eh, oh, ouais, tout ça, c'est des excuses pour pécher, c'est tout. Parce que la Bible nous dit, Romains 8, 1, 4, c'est clair. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui ne vivent pas conformément à leur nature propre, mais conformément à l'Esprit. En effet, la loi de l'Esprit qui donne la vie en Jésus-Christ m'a libéré de la loi du péché et de la mort, car il était impossible à la loi, parce que la nature humaine la rendait impuissante, mais Dieu l'a fait, il a condamné le péché dans la nature humaine, en envoyant à cause du péché son propre Fils, dans une nature semblable à celle de l'homme pécheur. Il avait une nature semblable à la nôtre, absolument. Là, c'est écrit nature, mais dans d'autres versions, c'est dans une chair semblable à la nôtre. Alors, ainsi, la justice réclamée par la loi est accomplie en nous, qui vivons non conformément à notre nature propre, à notre personnalité, mais conformément à l'esprit. En effet, ceux qui se conforment à leur nature propre se préoccupent des réalités de la nature humaine. Il y a une réalité humaine. Mais ils se conforment à ça, c'est tout. Tandis que ceux qui se conforment à l'esprit sont préoccupés par ce qui est de l'esprit, c'est-à-dire une autre réalité. Quelle réalité voulez-vous? La question est là. La question est là. Qu'est-ce que ça signifie tout ça? Eh bien que par le Saint-Esprit qui vit en nous maintenant, nous avons le pouvoir de vivre conformément à l'Esprit. Nous ne sommes plus obligés de vivre conformément à notre nature propre, à notre personnalité pécheresse. On n'est plus obligé, on n'est plus contraint. Même notre passé génétique, terminé. Mais il faut le savoir. Quand on le sait, ça nous aide beaucoup. Le diable ne veut pas qu'on sache ces choses-là. C'est pourquoi il s'arrange pour que les prédicateurs prêchent toujours des niaiseries. Mais il faut dire ces choses parce qu'elles sont de première importance. Une fois que vous savez que vous n'êtes plus obligé de continuer dans ce cycle négatif hérité à cause du péché, des gènes de vos parents, de vos arrière-grands-parents, etc. C'est cassé, c'est brisé, c'est fini. Maintenant, vous avez le pouvoir par le Saint-Esprit de vivre conformément à l'Esprit de Dieu. La nature humaine, elle est incapable de vivre conformément aux bonnes lois de Dieu. C'est pourquoi Jésus est mort à notre place. Alors, bon, ça veut dire quoi, Jésus est mort à notre place? Ça veut dire beaucoup de choses. Et ça veut dire une chose que j'entends rarement. Ça veut dire que s'il est mort à notre place, ben on est mort. Vous avez déjà réalisé ça? S'il est mort à notre place, ça veut dire qu'on est mort. Mort au péché. Le croyez-vous? En tout cas, Paul, lui, le croyait. Celui qui est mort au péché, il peut plus pécher parce qu'il est mort. Un péché, un mort, ça pêche pas, hein. Romains 6, 1, 11. Il faut aussi dire ces choses. Il faut enseigner ces choses. Romains 6, 1, 11. Que dirons-nous donc? Allons-nous persister dans le péché parce que la grâce se multiplie? Certainement pas. Nous qui sommes morts pour le péché, comment pourrions-nous encore vivre dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est-à-dire nous avons été plongés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Par le baptême en sa mort, nous avons donc été ensevelis avec lui, afin que, comme Christ est ressuscité par la gloire du Père, de même nous aussi, nous menions une vie nouvelle. En effet, si nous avons été unis par lui, à lui, par une mort semblable à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection semblable à la sienne. Nous savons que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance et qu'ainsi nous ne soyons plus esclaves du péché. En effet, celui qui est mort est libéré du péché. Bah oui, les morts ne pêchent plus, c'est fini. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, car nous savons que Christ ressuscité ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Christ est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Maintenant qu'il est vivant, c'est pour Dieu qu'il vit. De la même manière, vous aussi, considérez-vous comme mort pour le péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Ça me paraît tellement clair. Nous avons été baptisés en Jésus-Christ. Quand, à la croix, quand Jésus-Christ a pris nos péchés, il a pris notre mauvaise nature sur lui, il a pris tout ça, et nous avons été plongés en lui. Qui a été plongé en lui? Les prédestinés au salut. D'accord? Et puis quand nous avons pris connaissance de cela, nous avons signifié que c'est vrai en faisant comme l'eunuque a fait sur l'ordre de Philippe, nous avons pratiqué le symbole de la chose en nous faisant baptiser d'eau. C'est que le symbole. Mais les symboles sont nécessaires. Donc nous l'avons fait pour signifier que nous sommes morts. Nous allons bientôt baptiser notre sœur Élise ici, et aussi on va parler avec le papa de Stéphane. C'est quand on est plongé dans l'eau au nom du Seigneur Jésus-Christ, c'est on disparaît du monde des vivants, et puis quand on sort de l'eau, on réapparaît dans la nouveauté de vie. C'est le symbole, c'est déjà fait. Mais c'est le symbole de la chose. Nous sommes baptisés en sa mort, nous sommes ressuscités par, quand il est ressuscité, nous sommes ressuscités avec lui. Pourquoi? Parce que tout ça, c'est dans le, pour Dieu, le temps n'existe pas. C'est déjà fait. Comme je vous le disais vendredi, la crucifixion, elle avait déjà été faite avant la fondation du monde. C'était déjà fait. Vous vous rappelez que je vous ai enseigné ces choses-là? Alors, il faut que nous nous rappelions de ces choses-là. Vous me direz, mais comment se fait-il que je pêche encore parfois alors? Eh bien, parce que vous oubliez une chose, vous oubliez de temps en temps, comme moi aussi, de vous considérer comme des morts. On oublie qu'on est mort. Il y a des morts, ils oublient qu'ils sont morts, puis ils restent là où ils sont morts, puis il faut leur dire de partir. C'est vrai, hein? Il y a des gens qui ne savent pas ça, il y a des gens qui ne savent pas. Parce que vous oubliez de vous considérer comme des morts. Paul le dit, considérez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Christ. Nous devons, un, savoir ces choses, deux, avoir la foi dans ces choses, trois, pratiquer ces choses. Nous souvenir qu'on est mort. Si tu flanques une gifle à un mort, il ne réagit pas. Si quelqu'un te fait du mal, il ne réagit pas non plus. Bouf. C'est terrible, mais voilà. La pratique commence par cela, se considérer comme mort pour le péché. Se considérer comme mort. Un mort ne pêche plus. Autrement dit, croyez que vous êtes mort. Vous êtes beaucoup plus que ce que vous croyez être. C'est être vivant sur cette terre. Oui, vous êtes vivant pour Christ. Paul y dit, mais mourir, c'est-à-dire quitter mon corps, ça, c'est, pour moi c'est un gain parce que c'est lourd de vivre dans la matière. Mais si je vis, c'est uniquement pour Christ, c'est-à-dire pour pouvoir enseigner, pour pouvoir glorifier Dieu. Mais on vit que pour ça, on ne vit pas pour autre chose. Alors évidemment, on a aussi des petites joies toutes simples. On préfère manger un bon steak frites pour ceux qui ne sont pas végétariens que des graines. Voilà, parce que bon, on se fait des petits plaisirs, hein, une bonne fondue par 40 degrés à l'ombre. On se fait des petits plaisirs, on a le droit aussi. Mais quand même, c'est tout ce qu'on vit, c'est pour Christ qu'on vit. C'est, le péché n'a plus de pouvoir contre nous si on n'oublie pas qu'on est mort pour le péché. En tant que croyant, d'abord, il faut que nous sachions ces choses, puis en tant que disciple, ensuite, que nous nous affermissions de plus en plus dans la réalité des choses de l'esprit. Parce que vous avez vu, il y a la réalité de la chair, puis il y a la réalité de l'esprit. La réalité de la chair, elle est bien réelle. Si je me tape la tête là contre le mur, alors la réalité de la chose de la chair, hein. Mais bon. Jésus, lui, vivait tellement dans la réalité de l'esprit qu'il passait à travers les murs, marchait sur l'eau. Pour lui, c'était rien. Votre individualité, votre esprit commence à pouvoir se manifester au travers des régions denses et épaisses de votre personnalité, de votre nature pécheresse, qui doit être maintenue dans la mort. Par qui ? Par vous. C'est pas Dieu qui doit vous maintenir dans la mort, c'est vous qui devez vous maintenir par la mort. Déjà, premièrement, en croyant, vous êtes mort. Mort pour ce qui est le mal, mort pour ce qui est les casse-pieds, mort pour ce qui est... on est mort pour tout ça. On ne vit que pour Jésus-Christ, que pour faire son œuvre sur la terre. C'est ça le combat de la foi que tout disciple doit accomplir. Et pour gagner... Qu'est-ce que c'est ce truc-là ? Ah ouais. Pour gagner, eh ben, il faut du temps. Il faut du temps. Il faut de l'expérience, beaucoup d'expérience, beaucoup d'exercices, beaucoup d'études, sans abandonner la foi que Dieu tient tout dans ses mains. C'est ça le truc, c'est qu'il faut du temps. Il faut du temps. Alors, des moments, c'est énervant. Donc, quand ça commence à venir trop énervant, cool, je suis mort. Hein. Alors, je fais le mort, déjà, premièrement. Je suis mort, mort au péché, mort à tout ce qui est mal. Croire que de toute façon Dieu tient toutes ces choses dans ses mains et que quoi que votre personnalité dise, quoi que les gens disent, quoi que les démons vous disent, quoi que votre corps vous dise, vous êtes parfait en Jésus-Christ. Ça, c'est la vraie réalité. Le reste, c'est juste une autre réalité. Mais vous pouvez prendre le dessus sur la réalité de la chair par la réalité de l'esprit et transformer les choses qui sont dans la chair. Vous croyez ça ?
Oui.
Ça s'appelle des miracles. Et les miracles sont pour nous. C'est pas pour les pianos à queue. C'est vrai. Le problème du chrétien charnel, du chrétien personnel, qui laisse sa personnalité, sa nature inférieure, avoir le dessus... c'est qu'il se croit spirituel. Et il n'a pas tort, parce qu'il est aussi spirituel. C'est ça le problème. En réalité, tout chrétien est spirituel. Car tout chrétien a une individualité, une nature supérieure. Et le travail de tout disciple de Jésus-Christ, c'est d'arriver à soumettre la personnalité à l'individualité, de soumettre la chair à l'esprit. Parce que beaucoup de gens se croient spirituels parce qu'ils connaissent des choses de l'esprit. Même parce qu'ils ont réussi à faire 2-3 miracles. Mais c'est pas être spirituel, ça. C'est avoir observé des lois du monde spirituel, les avoir mis en pratique, puis avoir vu que ça marche. Ça veut pas dire être spirituel. Être spirituel, c'est maintenir la chair dans la mort pour vivre une autre réalité. C'est ce qui devrait être enseigné dans les écoles bibliques. J'en ai fait 3. Aucune n'enseigne ces choses. Aucune de ces 3 que j'ai fréquentées n'a enseigné ces choses. Ou, dans quelle école biblique on enseigne, par exemple, la raison de la prière et de la méditation? On n'enseigne pas ça. Ils n'enseignent pas ça. La raison de la prière et de la méditation, c'est d'établir des contacts, des communications entre notre nature inférieure et notre nature supérieure, pour que notre conscience s'élève. La prière, c'est pas simplement demander. La louange, c'est pas simplement de dire comment ne pas te louer, comment ne pas te bénir, alléluia, gloire à Dieu, alléluia, chagadagadagada. Non, la prière, la louange, la méditation, c'est pour établir une communion, une communication entre notre nature inférieure et notre nature supérieure pour que notre nature supérieure puisse prendre le dessus. C'est dans les moments de prière et de méditation et de contemplation que ça se passe, toujours. C'est à ça que ça sert la prière. On dit oui, prier, ça sert, on parle à Dieu. Bien sûr qu'on parle à Dieu, mais à Dieu, il est où Dieu ? Ben, il est dans notre cœur, oui ou non ? Il est dans notre individualité, il est dans notre esprit. Alors quand on prie, c'est déjà, nous commençons déjà à nous manifester spirituellement, à prendre le dessus sur notre chair. Vous avez vu combien notre chair aime pas prier ? Elle aime pas prier. Moi, ma chair, elle déteste prier. Ma personnalité déteste ça. On n'aime pas prier. Moi, j'aime pas prier. Les gens qui aiment me dire j'aime prier, bon, je m'en méfie. En général, c'est que nous, on en avait dans la communauté, ils aimaient mieux prier que de repasser leur linge. Hein. Vous vous rappelez de ça? Hein? Ça, c'était l'excuse pour pas bosser, c'était de prier, de jeûner, parce que comme ça, ben, il n'y avait rien à foutre. Ils étaient dans leur coin, on croyait qu'ils priaient, en fait, ils ronflaient sur leur plumard. Parce que tant que notre conscience n'est pas élevée, on ne voit pas la véritable réalité, la réalité des choses de l'esprit. On ne perçoit pas la véritable réalité. Parce que la véritable réalité, c'est celle de l'esprit. C'est pas celle de la chair. Parce qu'elle a été créée. Et quand une chose est créée, elle peut être décréée, elle peut être détruite. Tout ce qui a un commencement a une fin. Donc, ça n'est pas la vraie réalité. C'est ce qui s'est passé au temps où les chrétiens persécutaient ceux qui ne croyaient pas comme eux. C'est ce qui s'est passé à cette époque-là. Ils se croyaient spirituels. Mais ils n'étaient pas du tout. Ils ont massacré des gens au nom de Jésus. Heureusement, maintenant, leur a ôté ce pouvoir dans nos pays. Mais bon, ça s'est déplacé ailleurs parce que c'est des démons qui font ça. Donc, comme ça ne marche plus ici, ben, ils sont partis ailleurs. Et ils continuent. C'est ce qui se passe de nos jours avec tous ces religieux charnels qui manifestent quoi ? Ils manifestent des personnalités capricieuses, désordonnées, révoltées, anarchiques, insoumises à l'ordre établi dans l'Église et dans l'État. C'est que ça. Quand vous voyez là tous ces gens qui rentrent dans l'État islamique, c'est quoi ? Vous voyez leur cursus, vous voyez leur passé, ben c'était tous des délinquants. C'était tous des gens qui n'avaient rien à faire de Dieu. Puis tout d'un coup, voilà qu'ils se sentent spirituels parce qu'on leur balance des versets bibliques, on leur explique ce qui se passe voilà, dans le monde, c'est ça. Et puis alors d'un coup, ils s'enferment pour leur truc et puis ils deviennent... Ce sont des esprits, des personnalités capricieuses, désordonnées, révoltées, anarchiques, et puis qui sont insoumises. Alors tout d'un coup, on leur dit, il faut être soumis. Islam, ça veut dire soumis. Alors, on leur bourre le mot avec ça, et puis, d'un coup, il y en a, ça fait l'étincelle, puis. Puis ils vont se répéter dans les foules. Ces gens-là arrivent à croire sincèrement que ce qu'ils font, c'est le mieux. Faut pas me dire qu'ils vont se faire sauter comme ça, qu'ils vont se faire tuer comme ça, sans avoir cette certitude que c'est le mieux. Mais c'est une spiritualité qui est conduite par la chair, par leur impulsion profonde, lourde, et impie, charnel, pécheresse. Ils pensent que ça va faire progresser les choses de Dieu de faire ça. Ils pensent que c'est une véritable, ça va participer à une véritable évolution. Ils croient faire la volonté de Dieu en tuant. Parce que c'est leur personnalité qui conduit leur spiritualité. Et c'est le chaos. Et c'est le chaos. Sans parler, donc voilà, si on veut, on peut parler de ces extrémistes et puis taper dessus tant qu'on veut, mais moi je vous le dis, c'est la même chose avec les mémères chrétiennes qu'on voit dans les églises et qui vont pas tuer avec une kalachnikov, mais qui tuent avec leur sale langue de vipère. C'est la même chose, quand je dis les mémères, les pépères, c'est la même chose. Et ils sont en train de massacrer à qui mieux, ils osent même pas le faire en face, alors ils le font par internet, en faisant des forums, où ils vous dégueulent dessus. C'est quoi ça? Ils se croient spirituels en plus. Ils se croient spirituels. En fait, c'est le bien et le mal qui s'unit. C'est exactement ce que Dieu ne veut pas. Dieu veut que le mal soit anéanti. Mais qu'il soit anéanti par le bien, pas par le mal. Vous voyez ? Dieu a créé le méchant pour qu'il soit détruit, mais pas par le mal, mais par le bien. Dieu a tout créé, il est à l'origine de tout, mais de tout. Mais regardez dans la nature, il a créé l'or, mais pour avoir l'or, ben, il faut l'extraire. Il faut l'extraire. L'or, il est mélangé à une matière qui est beaucoup moins noble, qui elle aussi a été créée par Dieu. Et si vous voulez de l'or, ben, il faut bosser hein, pour l'avoir. Réellement, tout vient de Dieu. Même dans la matière, il y a des matières lourdes et il y a des matières plus légères, comme le gaz, c'est une matière. Et une fois qu'on a extrait un diamant, par exemple, du rocher où il se trouve, et ben après, il faut encore le tailler pour qu'il puisse être comme on aime, hein, n'est-ce pas ? Ben, c'est la même chose avec notre nature humaine. Une fois qu'on a été extrait de ce monde, une fois qu'on a été mis en Jésus-Christ, ben après, il faut encore être taillé pour pouvoir briller de mille feux. Et ça, ça fait bobo ! Ben oui, mais ça fait partie du plan de Dieu. Eh bien, notre personnalité, elle a sa raison d'être, mais elle ne peut être à la gloire de Dieu que soumise à notre individualité. Elle a sa raison d'être, c'est seulement quand elle est soumise à notre individualité, c'est-à-dire à notre esprit qui est éternel et qui vient de Dieu. C'est-à-dire à ce que nous sommes de toute éternité. Notre personnalité, elle est opaque, elle est lourde, elle est rigide. Tandis que notre individualité, elle est légère, elle est mouvante, elle est vivante, elle est spirituelle. Les deux sont très différentes. Et pourtant, leur origine est la même, c'est Dieu. Vous ne pouvez pas aller contre. Vous ne devez pas haïr votre personnalité. Vous devez l'aimer et la conduire, la diriger, la brider. L'individualité est cachée en Christ et Christ, il veut paraître dans votre personnalité. Vous comprenez ça maintenant avec tout ce que je vous enseigne. Comme c'est écrit dans Éphésiens 1, nous sommes en Jésus-Christ et sur la terre, alors qu'on est dans la chair, c'est Christ qui est en nous. Il veut paraître au travers de nous, ici sur cette terre. Mais comment voulez-vous qu'il paraisse en vous, ici sur cette terre, si vous n'êtes déjà pas au clair au sujet de votre personnalité, votre individualité, c'est-à-dire la chair, l'esprit, que vous prenez les réalités de la chair pour les réalités de l'esprit, que vous mélangez tout, c'est le chaos. Alors il faut qu'il y ait anéantissement de votre personnalité, de votre individualité, ou en termes plus évangéliques, si vous voulez, il faut que votre personne, votre moi disparaisse pour que Christ apparaisse au travers de vous. Il faut que le mal soit anéanti par le bien. C'est pourquoi on ne doit pas rendre le mal pour le mal. On est tenté de le faire. Jésus aussi était tenté de le faire. Sur la croix, il n'avait qu'un mot à dire et tous ses ennemis, ils étaient massacrés, zigouillés. Là, ils auraient explosé, là. Mais il ne l'a pas fait. Il a dit, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Votre individualité, votre esprit en Christ, veut faire le bien. Mais votre personnalité ne le veut pas parce qu'elle est obtuse, elle est opaque, elle est mal adaptée aux choses de l'esprit, elle est mal réglée aux choses de l'esprit. Elle est comme une radio qui n'arrive pas à capter certains postes émetteurs, votre personnalité. Elle peut un petit peu comprendre. Hier, on était dans la voiture avec Stéphane, et puis... Je bouge, j'ai touché un bouton, on ne doit jamais faire ça, hein. J'ai touché un bouton, alors on entendait la radio, ça faisait... C'était déréglé, voilà. Alors il a appuyé sur un autre bouton et hop, ça y est, c'est redevenu bien. Eh bien, notre personnalité, elle ne peut pas capter les choses de l'esprit. C'est notre esprit qui doit prendre le dessus, elle est lui imposée. Tu vas obéir maintenant, espèce de saleté. Je sais que tu viens de Dieu, je te respecte, je t'aime beaucoup, voilà, tout ce que tu veux, mais maintenant tu obéis. Ah, non mais oh, c'est qui le chef ? Vous voyez, les ondes de l'intelligence qui se propagent depuis en haut, ça vous passe à travers sans laisser de traces. Pourquoi ? Parce que vous êtes pas branché sur la bonne longueur d'onde. Parce que vous avez vos pensées charnel que vous croyez être des pensées spirituelles, mais c'est dramatique, et beaucoup sont comme ça. Et vous n'avez aucune idée de la réalité de ce que vous êtes en train de vivre ici-bas dans la matière. Vous pensez que vous êtes les héros de la foi, alors que vous êtes les zéros de la foi. Beaucoup sont comme ça, une grande majorité comme ça, c'est effrayant. Aujourd'hui, c'est un christianisme de pacotille, de supermarché, mais c'est affolant. Parler avec les chrétiens, mesurer leur niveau, c'est effarant. Jésus dit, allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle, celui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Mais où sont ces chrétiens-là, qui font des miracles au nom du Seigneur Jésus-Christ? Alors maintenant, ils commencent à se donner des excuses. Oui, mais c'est pas tous qui ont les guérisons, c'est pas tous qui ont le parler en langue, c'est pas tous. Ouais, mais le nombre de chrétiens qu'il y a, et le nombre de ceux qui font des miracles, c'est vraiment... C'est fou quand même. C'est quand même incroyable. Il faudrait un petit peu, je pense, que les chrétiens se manifestent plus spirituellement dans la véritable spiritualité, et pas simplement dans une connaissance dogmatique des choses des Écritures. Il faut exercer notre spiritualité. Il faut s'exercer à la réflexion, il faut s'exercer à la méditation, il faut fléchir notre personnalité, l'obliger à réfléchir, l'obliger donc à méditer, l'obliger à pratiquer la spiritualité, à faire les choses d'une façon spirituelle telle que Jésus veut qu'on les fasse. La première chose à faire, c'est de vouloir vivre par l'esprit, c'est de le vouloir. Vivre par l'esprit, c'est très différent que de vivre par la chair, que de vivre par la personnalité. La personnalité des charnels, elle est gonflée par leur éducation, par leur instruction, par les conseils que certains leur donnent, et tout ça, ça les pousse à développer leur personnalité. Et maintenant, ben, elle est comme une tumeur gigantesque, on peut plus rien toucher, on peut plus rien faire, c'est, comme disent les médecins, c'est inopérable. C'est inopérable, on peut plus rien faire avec ça, on peut plus rien dire, sans provoquer une réaction maladive grave, et puis ça met des métastases qui s'étendent partout. Dans la vie chrétienne, Jésus nous recommande 7 choses, et je vais terminer là-dessus, pour que justement on n'arrive pas à avoir un moi surgonflé comme ça à cause de notre éducation, même de notre éducation chrétienne. Premièrement, notre personnalité doit se soumettre à notre individualité. Et donc avoir la foi, c'est-à-dire avant d'entreprendre un combat, je dois croire au motif de ma lutte. Est-ce que vous croyez au motif de votre combat? Vous avez déjà répondu, mais pourquoi est-ce qu'on mène ce combat? Deuxièmement, comme Jésus, je dois choisir mes compagnons, je dois choisir mes amis et apprendre à lutter à leur côté, parce que personne ne gagne une guerre tout seul. Personne. Ou personne ne peut gagner une guerre en étant accompagné de malades mentaux, de mous et de versatiles. Qui un jour sont là, puis le lendemain, bye bye. Troisièmement, je dois choisir le temps. Une bataille en hiver, c'est pas pareil qu'une bataille en été. C'est vous qui choisissez quand vous voulez vous battre. C'est pas votre ennemi qui choisit, c'est vous. Un bon guerrier choisit le moment d'entreprendre le combat. C'est lui qui décide. C'est lui. Quatrièmement, je dois choisir l'espace, l'endroit, parce qu'on ne lutte pas pareillement dans un défilé ou dans une plaine. Le combat est différent. Il faut donc considérer l'espace qui nous entoure. Il faut que ce soit un endroit où on peut se mouvoir facilement. Il ne faut pas que ce soit un endroit confiné, comme là où on était avant. On a changé d'endroit pour avoir un autre endroit pour se battre. Un endroit où on est plus en paix pour pouvoir lutter. En paix dans les choses de la chair. Vous voyez ce que je veux dire? On doit choisir l'endroit, l'espace. Cinquièmement, on doit choisir la stratégie. Le meilleur guerrier, c'est celui qui planifie son combat. C'est pas celui qui dit « C'est Dieu qui le fait ». Ça, c'est des imbéciles. Bien sûr que c'est Dieu qui fait tout. Mais il nous a mis sur cette terre pour manifester sa volonté. Il faut connaître sa volonté pour la faire. Amen. Donc, on planifie notre combat dans la prière, dans la réflexion, la méditation. et non pas on ne laisse pas venir les choses comme ça. Sixièmement, un bon guerrier sait que l'issue de la bataille se trouve toujours dans les mains de Dieu. Alors il ne se préoccupe pas des résultats. On ne se préoccupe pas du résultat de la bataille. Ce qui est important, ce qui doit nous préoccuper, c'est l'état de notre cœur. Examiner notre cœur, se demander, est-ce que je mène le bon combat ? Il faut être sûr de ça. Il ne faut pas s'auto-suggestionner à ce sujet-là. Il faut être sûr de ça, bibliquement parlant. Est-ce que je suis en ordre ? Est-ce que je suis dans les bonnes règles ? Est-ce que ce que je fais, c'est selon les règles de la parole de Dieu ? Par exemple, je vous donne un exemple. La Bible dit, sortez du milieu d'elle. Si vous n'êtes pas d'accord dans votre église, c'est à vous de sortir, ce n'est pas votre pasteur de partir. Nous, on est partis, parce qu'ils ne voulaient pas sortir, eux. Ils sont dans la fausse, ils sont dans une fausse règle. Il y a quelque chose de faussé dans leur combat, pas nous. Vous comprenez ce que je veux dire ?
Oui.
Nous, on est libres de rester ou de partir. Mais eux ne sont pas libres de rester. S'ils ne sont pas d'accord, ils doivent partir. C'est ce qui est écrit. Ils n'ont pas compris ça. Leur combat est faussé au départ. Mais ils verront le résultat. Alors, on ne se préoccupe pas des résultats. On examine notre propre cœur. Si la réponse est oui, oui, tu mènes le bon combat, alors on peut être dans le repos. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre là, le repos. Si la réponse est non, tu ne mènes pas le bon combat, alors qu'est-ce que la Bible nous dit de faire ? Ben, tu vas trouver ton adversaire pour t'arranger avec lui. Mais ils ne le feront pas. Ils ne le feront pas. Je prophétise qu'ils ne le feront pas. Et s'ils le font, je vous demanderai pardon d'avoir apporté une fausse prophétie. Vous voyez ? Il ne suffit pas de croire ou de dire « Je suis avec Dieu, Dieu est avec moi ». Tous les peuples ont toujours fait ça pendant les guerres. Les Allemands disaient « Dieu est avec nous ». C'était Dieu qui était avec eux. Il faut en être absolument certain. Et il y a des critères pour le savoir. Et je vous les ai donnés ce matin dans ma prédication. C'est à vous d'aller réécouter et puis chercher ces fameux critères. Je vous les ai donnés. Le fou, il construit sur du mouvant. Le sage, il construit sur du roc. Pourquoi est-ce que le fou choisit de construire sur du mouvant ? Pourquoi ? Parce qu'il est fou. C'est tout simple, parce qu'il est fou. Et qui a fait les fous ? Dieu. Alors, si on ne doit pas critiquer Dieu au sujet de comment il nous a fait nous, on ne doit pas critiquer Dieu au sujet de comment il a fait les fous. Il a fait des fous, ils sont nécessaires. Dieu a aussi fait les sages. Puis voilà. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais. Et voilà la septième chose, le septième point, le sage, il partage sa connaissance du chemin avec le fou. Parce que le sage, il a l'espoir que ça va pouvoir aider le fou. C'est un espoir un peu fou. Hein. Le sage, il a l'espoir que ça va peut-être aider le fou. Et il sait que celui qui aide, il est toujours aidé. Le sage, il est intelligent. Si tu aides, tu seras aidé. Voilà pourquoi je fais ces prédications. Pour vous aider, pour aider ceux qui sont fous, c'est pas vous qui êtes fous, mais je veux dire, on a tous un petit brin de folie aussi. On a besoin toujours de se remettre sur le... N'est-ce pas ? Et celui qui aide, bah, il est aidé. C'est un principe biblique. Celui qui donne, il reçoit. Que le fou tienne compte ou pas de ce que le sage dit, ça n'appartient ni au fou, ni au sage, mais à Dieu seul. Donc, qu'est-ce qu'on a à perdre de faire le bien ? Qu'est-ce qu'on a à perdre de semer, et d'aider et de bénir ? Alors, ne nous lassons pas de faire le bien, ainsi nous rassurerons nos cœurs devant Dieu. Amen. Jésus, je te prie que ces quelques conseils que je donne ce matin puissent aider tous ceux qui sont dans le trouble, dans la persécution, dans les problèmes, dans les difficultés, avec leur propre chair, avec la chair d'autres personnes qui sont avec eux, contre eux, ou que sais-je. Je te prie, Seigneur Jésus, que tu aides chacun et chacune à avoir clair dans sa situation et à se choisir les soldats avec lesquels ils veulent se battre, combattre l'ennemi, et qu'ils ne se sentent pas tout seuls et qu'ils ne fassent pas les choses tout seuls non plus. Merci mon Dieu parce que tu as créé l'église afin que nous puissions faire partie d'un peuple. Je sais que maintenant dans cette église, malheureusement, Il y a beaucoup de vierges folles, mais bon, c'est à nous d'avoir l'intelligence, et je te prie de nous donner l'intelligence à chacun d'entre nous, pour que nous sachions discerner le bien du mal, la sagesse de la folie, et que nous sachions toujours trouver en toi la source pour ne pas nous lasser de continuer à faire le bien. Je te le demande dans le nom béni de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen.